Alléluia. Amen. Christ fait toutes choses à merveille.
Amen.
Et nous sommes tous des merveilleuses créatures. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que les gens ont dit sur nous, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit sur nous. Amen. Alors, pour ceux qui viennent pour les premières fois, juste dire un petit peu l'enseignement du vase restauré, c'est 12 étapes qui consistent un petit peu à mettre en évidence deux choses. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez découvrir ou quelque chose qui a été inventé. La Bible est complète. Il y a tout dans la Bible. Christ a tout accompli. Parfois, seulement, il se peut qu'on ne comprenne pas toujours ce que le péché a fait dans notre vie. Et le danger, c'est que si on ne comprend pas ce que le péché a fait dans notre vie, le péché qui a touché chaque être humain, si on ne comprend pas ce que le péché a fait dans notre vie, eh ben on peut porter ce qu'on va voir ce soir, ces dysfonctionnements, ces problèmes dans notre vie, on peut les porter toute notre vie. Et le vase restauré est là pour que, comme son nom l'indique, pour que nous soyons restaurés et que nous ne soyons pas esclaves du péché, esclaves de ce que le péché a fait en nous. Donc, à la fois, on va travailler sur mettre en évidence ce que le péché a fait dans notre vie et on va aussi apprendre à se comporter dans les relations les uns avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes, de façon, eh bien, quelquefois, à désamorcer les conflits, en tout cas, à être vraiment des artisans de paix. Apprendre à pratiquer la parole de Dieu pour que, dans nos relations les uns avec les autres, nous devenions des experts. Parce qu'on va voir ce soir comment le diable utilise un petit peu les êtres humains et comment tout ça se met en place. C'est une introduction, mais on verra par la suite qu'il faut démasquer toutes les ruses de l'ennemi. Parce que sinon, si on ne connaît pas comment l'ennemi agit avec les êtres humains, alors nous allons nous faire piéger. Et le but, c'est de mettre à jour toutes ces techniques de l'ennemi, ce que la Bible enseigne, les mettre en évidence, pour que nous, peuple de la lumière, peuple de la vérité, nous ne subissions pas ces attaques-là sans que nous soyons au courant. Donc, c'est à la fois un travail sur nous-mêmes, de mettre en évidence chaque personne, qu'est-ce qu'il y a à restaurer, et comprendre comment l'ennemi agit de façon à ce que nous ne soyons plus esclaves de tout ça. Ça va ? Amen ? Bien. La Bible nous dit que nous sommes dans un monde de ténèbres où l'homme a été déformé par le péché et il a été rendu aveugle. Nous avons la chance de connaître la vérité. Nous avons la chance de connaître la parole de Dieu. Ce monde ne connaît pas la parole de Dieu. Ce monde ne sait pas où est-ce qu'il en est. Mais nous ne devons pas être naïfs. Nous devons comprendre que ce que dit la Bible est vrai et il faut qu'on en tienne compte. Bien souvent, j'observe que des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui sont au contact de la parole de Dieu, quelquefois se font piéger parce qu'ils ne prennent pas au sérieux ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, la première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce monde-là qui nous entoure, ce monde-là est dans les ténèbres. Et donc, c'est à nous, et c'est ce que la Bible nous demande, d'apporter la lumière dans ce monde-là. Donc, ne soyez pas étonnés que, bien souvent, vous allez ne pas être compris dans ce monde parce que, appartenant à Dieu, appartenant au peuple de Dieu, vous n'allez pas toujours être compris dans votre façon d'agir. D'accord ? Mais c'est normal. C'est normal. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours de prendre position pour lui. De l'aimer, comme on va le voir tout à l'heure, de l'aimer, le mettre en premier dans notre vie, l'aimer de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. C'est important parce que, on va subir des influences, on va être menacé dans notre façon de penser, dans notre foi, et il faut tenir ferme. Donc c'est un premier combat qu'on doit mener, c'est prendre conscience que nous sommes dans un monde de ténèbres, les hommes ne voient pas la réalité qui est écrite dans la Bible, et 2 Corinthiens 4:4 nous dit ceci, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité, Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Et c'est important de prendre cette base-là. Pourquoi ? Parce que notre vie, elle est faite de relations. Si vous réfléchissez deux minutes, votre vie, ce sont des relations. Hein ? On va le voir, nous avons trois sortes de relations. La relation avec Dieu, la relation avec nous-mêmes et la relation avec les autres. Et la plus grande source de conflits que nous allons avoir sur cette terre, c'est nos relations les uns avec les autres. Puisque c'est notre ADN. Hein. Notre ADN, c'est l'amour. C'est aimer et être aimé. Et donc, évidemment que pour être aimé et être aimé, ça veut dire qu'il y a de l'échange. Ça veut dire qu'il y a des relations. Et c'est là aussi, dans les relations, qu'on va trouver à la fois l'expression de l'amour et en même temps recevoir peut-être les plus grandes souffrances de notre vie. Il y a cette grande contradiction que c'est dans les relations que tout se joue. Okay ? Mais si vous prenez ça sérieusement, que les gens ne sont pas éclairés, que les gens sont aveuglés et que les gens sont dans leur péché, eh ben, ne soyez pas surpris que les relations sont compliquées, que les relations sont difficiles. Mais vous avez l'avantage de le savoir. Vous avez un avantage sur tous les gens que vous allez côtoyer qui n'appartiennent pas à Dieu. Eh bien, ces gens-là, malheureusement, sont dans l'obscurité. Alors, évidemment, on ne va pas leur dire parce qu'ils ne vont pas comprendre. On ne va pas leur dire, évidemment, mais toi, tu es dans les ténèbres parce que les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est important de comprendre ça parce que quelquefois, nous, on va en vouloir aux gens. Hein, on va en vouloir aux gens parce que, eh bien, dans cette obscurité, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et donc, si on commence à dire « Mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a agi comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» On va se sentir victime. Hein ? Alors qu'en réalité, c'est que ces gens-là qui nous entourent, c'est nos proches. Ça peut être ton mari qui n'est pas converti, ça peut être ta femme qui n'est pas convertie, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents. En fait, bref, c'est nos proches. Hein ? Mais qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe dans cette vie et qui sont victimes, eux, de l'ennemi. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que ça va nous amener à utiliser beaucoup de compassion et de miséricorde. Et ce n'est pas la peine de se battre avec les gens avec qui on n'est pas d'accord et qui ne sont pas éclairés. Amen ? Donc, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un combat. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes visés par l'ennemi en premier. C'est un combat, d'accord ? Et il faut prendre conscience de ça parce que souvent, on prend ça à la légère et on se relâche et quelquefois, on ne s'attend pas, on prend des coups à des endroits où on n'aurait pas pensé parce qu'on a encore cette naïveté de dire « Non !» Pas elle. Non, mais c'est pas possible, pas lui. Non, après tout ce que j'ai fait pour elle, elle peut pas faire ça. Quelquefois, on va être encore surpris par l'attitude des gens qui nous entourent parce qu'on a une conception, je dirais, un petit peu naïve, un petit peu bisounours. On ne comprend pas la puissance du péché, comme je l'ai dit hier soir. On ne comprend pas cette puissance du péché qui agit dans chaque être humain et qui fait que l'ennemi utilise cette puissance pour venir blesser les êtres humains. C'est fondamental de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, alors régulièrement, on sera blessé, on sera offensé. Et quand on est blessé et offensé, vous savez ce qu'on fait ? On ouvre la porte au diable. On ouvre la porte à l'ennemi. C'est comme ça qu'il pratique. Dans 1 Jean 5, 19, il est écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » C'est clair et c'est net. Le monde entier, la planète, les êtres humains sur cette terre sont sous la puissance du malin. Ça nous fait réfléchir. Mais ça, c'est la réalité. On aimerait que ça soit autrement, mais c'est la réalité. Les gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu sont sous la puissance du malin. Donc, quand il vous arrive des choses, et là vous dites, incroyable, mais c'est incroyable. Vous écoutez les actualités et vous dites, oh, mais comment c'est possible? Et comment? Parce que le monde est sous la puissance du malin. Ah, je disais hier soir, dernièrement, il y a eu le 80e anniversaire de l'Holocauste. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les actualités. Quand vous regardez l'Holocauste, vous dites, il y a un truc qui ne va pas. Comment des êtres humains peuvent en arriver à de telles atrocités? Je ne sais pas si vous avez vu les images de l'Holocauste, mais ce n'est pas supportable. C'est tellement atroce quand vous voyez les êtres humains, comment ils sont devenus cadavériques, des morts vivants, hein, et qu'on les met dans des chambres à gaz et qu'on gaze tout le monde, et après c'est un tractopelle qui pousse tous les cadavres pour aller dans un trou. Et là, vous dites quand même que l'humanité est arrivée à un niveau. Ce n'est pas une personne. Quand vous tombez sur un fou, vous voyez un serial killer à la télé, vous dites, oh, ben, disons, lui, il était fou, hein, qui a tué je ne sais pas combien de femmes. Vous dites, bon, vous dites, ça pourrait arriver, un fou. Mais quand vous voyez une armée, quand vous voyez un nombre incalculable de personnes qui sont dans cette idéologie-là, vous vous dites, mais c'est diabolique. Ce n'est pas possible, humainement parlant. Vous voyez? Et c'est ça que je veux vous faire sentir du doigt. C'est cette puissance du péché. Parce que le péché, il n'y a que les chrétiens qui en parlent. Vous n'entendrez pas dans le monde séculier de parler du péché. Si vous parlez du péché, ah ben c'est pas bien, tu as volé. Ah, c'est pas bien, tu as fait ci, tu as fait ça. On va le ramener à la moralité. Et ça, c'est un piège de l'ennemi, de ramener le péché uniquement à la moralité. La Bible ne parle pas de moralité pour le péché. La Bible parle de puissance. La puissance du péché. La puissance du péché, où ça? Dans un être humain. La capacité qu'a un être humain de faire du mal. Réfléchissez à ce qui vous est arrivé dans votre vie depuis que vous êtes existé sur cette terre. Vous en avez rencontré des gens qui ont été capables de vous faire du mal. Peut-être que des fois, vous n'avez même pas osé en parler tellement vous aviez honte. La capacité que l'être humain peut développer à faire le mal. Vous voyez ? C'est une réalité et c'est notre réalité. Et on doit composer avec ça. Dans Jérémie 17, 9, la Bible n'est pas avare de tout ce que je dis là, de répéter les versets. Le cœur de l'homme, il est comment ? Il est tortueux. Vous avez déjà vu un cœur tortueux ? Tortueux et dans tous les sens. Tu crois qu'il est comme ça? En réalité, tu découvres au bout d'un moment, waouh, j'avais pas vu ça. Il a bien joué son jeu, lui, il a bien caché son jeu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est menteur. Il te promet des choses, après, il te fait autre chose. Il n'y a pas de parole. Il est attiré par l'argent et au nom de l'argent, il peut faire n'importe quoi. Au nom du pouvoir, il va écraser les autres. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Je vais vous faire une révélation. On a tous un cœur méchant. Peut-être pas beaucoup de monde qui va être d'accord avec moi. On a tous un cœur méchant. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter, ça? Est-ce qu'on est prêt à le reconnaître, qu'on a tous un cœur méchant, qu'on a été capable de faire de la méchanceté dans votre vie, dans notre vie. Moi, j'ai honte de raconter ma jeunesse. Je ne la raconte pas. J'ai honte. J'ai honte de dire ce que j'étais capable de faire. Là, vous voyez un gars là, qui a l'air bien et tout ça. Mais il est tortueux, le gars. Le gars, si vous lui enlevez Jésus, demandez à Erlande ce que ça donne. Elle va vous le dire. Elle a vu le gars en action. Et ceux qui m'ont connu quand j'étais jeune, je peux vous dire qu'eux, ils me verraient aujourd'hui, ils ne comprendraient pas. Ils diraient, waouh, il a changé ce gars-là. Je fais des choses incroyables dans ma vie. J'aurais dû finir en maison de correction. Le mal était en moi, comme tout le monde. Et je ne savais même pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas dire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non. Il y avait une capacité à faire le mal en moi. Mais Dieu change les choses. Alléluia. Dieu change les choses. D'un cœur méchant, Dieu va changer le cœur en bien. Alléluia. Mais, juste pour vous dire, et on le reverra plusieurs fois, à condition qu'on reste sous la gouverne de Dieu. Vous lâchez la main de Dieu, et croyez-moi qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour que le cœur méchant y réapparaisse. Ceux qui sont passés par un divorce, hein, ceux qui sont passés par des séparations, ils pourraient témoigner et dire combien le cœur de l'homme peut être méchant. Quand vous vous séparez d'une copine ou d'un copain, quand les amitiés se cassent, voyez un petit peu comment le cœur, il remonte tout de suite à la surface. Et là, vous voyez quelqu'un d'autre en face de vous. Ce n'est plus la séduction, ce n'est plus les bouquets de fleurs. Là, on voit un autre personnage. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, on va y revenir tout à l'heure. Qui peut connaître la personne qui vit avec vous? Qui peut connaître la personne que vous avez en face de vous? Qui peut le connaître? Vous croyez connaître la personne qui est en face de vous? Ben, vous ne la connaissez pas. Vous veniez pour entendre des bonnes choses ce soir? Tout ça pour vous dire, avoir conscience de la méchanceté du monde. C'est important de partir de là, partir que le monde est méchant. Ben, on n'ira pas rentrer à la maison, se fermer à double tour et puis on ne vit plus. Mais c'est une réalité. On doit composer avec ça. C'est la base. C'est dans ce contexte que Jésus va parler d'amour. Jésus savait très bien ce qu'il faisait, puisque Jésus est descendu sur la terre parce que justement il fallait régler le problème du péché. Et c'est dans ce contexte qu'on parle d'amour. Ça peut paraître contradictoire, hein, ça peut paraître contradictoire, mais c'est dans ce contexte que Jésus va parler d'amour. Le docteur de la loi qui lui voulait piéger Jésus et qui lui dit, ben alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, hein? Et la vie éternelle, c'est une vie qui commence maintenant, je le rappelle toujours, parce que pour certains chrétiens, la vie éternelle, c'est quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Ça, la vie éternelle. Mais ce n'est pas vrai. La vie éternelle, elle commence le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour régler le problème ici et maintenant. Et la vie éternelle, c'est une puissance. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient habiter ton cœur et qui est la condition pour que ton cœur soit changé. Parce que tu n'y arriveras pas par toi-même. Tu peux prendre des bonnes résolutions. Ça, tout le monde peut le faire. Ça dure peut-être 3 jours, peut-être 1 semaine, si tout va bien. Mais la semaine suivante, la nature revient. Donc, quand ton chéri t'a dit « Excuse-moi, je ne recommencerai plus, c'est fini. » Ouais, pendant 4-5 jours. Et puis après, ça recommence. Parce que c'est sa nature. Il est poussé par ça. Vous comprenez? Mais à partir du moment où on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit cette puissance en nous, et c'est cette puissance qui va permettre d'avoir un impact dans ton cœur et de changer ton cœur, de transformer ton cœur, de ne plus réagir comme tu réagirais si tu n'avais personne, tu n'avais que ta vie à toi et avec ta méchanceté qui est en toi. Et le Saint-Esprit vient changer tout ça. Et c'est important pour pouvoir répondre à cette question de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle? Et Jésus n'a pas dit « baptise-toi et puis tu as la vie éternelle ». Il répond concrètement dans cette vie-là, tu vois, il dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même hein ». Et donc, Jésus dit « mais oui, tu as bien répondu ». Et là c'est important, fais cela. Ce n'est pas tout de connaître, mais c'est mettre en application. Ce n'est pas tout de connaître la parole de Dieu, mais c'est de la mettre en application, sinon ça ne sert à rien. C'est comme si tu vas chez le médecin, il a trouvé ton problème, il te fait une belle ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu as tous les médicaments qu'il faut, tu mets les médicaments sur la table et tu les regardes. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est pareil pour la parole de Dieu. C'est une ordonnance. Et cette ordonnance-là, il faut la mettre en application. La vie éternelle versus le péché qu'on a vu la semaine dernière. On a bien ici deux choses qui s'affrontent. Hein? La Bible parle de la vie de la chair, la vie charnelle et la vie de l'esprit. On a la vie éternelle, Zoé, c'est ce que tu reçois quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu reçois cette vie-là, c'est la vie de Dieu de laquelle toute la création, imagine bien, tout ce qui a été créé, toute cette terre vient de l'énergie de Dieu. Ça prend dans le Seigneur. Et c'est cette énergie-là que tu reçois. Je ne sais pas si on s'imagine un petit peu la puissance que ça peut avoir. Tu reçois l'énergie du ressuscité, l'énergie qui a tout créé. Tu reçois ça. Elle tire son origine, elle est capable de stimuler la pensée qui a été affectée par le péché. Vous voyez ? Toute notre être a été affectée par le péché. Et ça se passe dans les pensées. Mais la puissance du Saint-Esprit vient et est capable de gérer tes pensées, c'est-à-dire d'apporter une autre source que celle de la méchanceté. On termine, c'est une puissance qui permet de penser différemment, de ressentir différemment et de décider différemment face aux choix auxquels un être humain doit faire face. Merci Seigneur, parce que regarde le péché à l'inverse, c'est une puissance aussi, elle a cette capacité de venir en toi et de t'imposer ses choix. Elle a cette capacité-là. Et ce sont des choix destructeurs. Parce que le malin, sa nature, c'est la méchanceté. Sa nature, c'est de détruire les enfants de Dieu, de détruire les êtres humains. Et donc, il n'a qu'une ambition, c'est de te détruire. Et donc, tous tes choix, il y a des choix que si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, si tu n'as pas posé les bonnes questions au Seigneur, si tu n'es pas dans une bonne communion avec le Seigneur, dans une communion du Saint-Esprit, tu crois que tu fais le choix, alors qu'en réalité, ils sont influencés par l'ennemi. Et on le voit, tu prends des conflits, tu prends les conflits que tu as avec tes proches, regarde bien de quoi c'est parti. C'est parti quelquefois d'un quiproquo, c'est parti d'une blessure, c'est parti d'une phrase maladroite. Hein. Et là, l'esprit du mal t'a incité à continuer. Tu aurais pu lâcher l'affaire. Tu aurais pu dire, c'est pas grave. On n'est pas d'accord, on reste là. Mais combien de fois on se prend la tête? Combien de fois on s'est disputé toute la journée pour des choses qui n'en valent pas la peine? Pourquoi? Parce que l'ennemi essaye de nous attiser. Essaye de dire, mais quand même, tu ne vas pas te laisser faire. Tu as vu comment il t'a parlé? Tu as vu comment il t'a parlé? Vous comprenez cette puissance-là qui vient nous chercher? Ne te laisse pas faire quand même. Mais tu es une mauviette. Elle te parle comme ça, tu dis rien. Attaque. Et combien de fois tout allait bien, comme je l'ai dit la semaine dernière, tout allait bien, tout était. On ne comprend pas. Tout était bien. Et tout d'un coup, une phrase a suffi pour allumer, chlac, la petite allumette. Et l'étincelle. La sœur n'est pas là. La sœur Marie-Claude nous a raconté une fois une blague. Mais c'est une blague, mais vraie. Hein, et c'est incroyable. Elle est amie, écoutez bien ça, elle est amie avec une sœur depuis 15 ans. Elle a une amitié de 15 ans. Ouais. Et cette sœur-là, elle se gare avec sa voiture et puis elle rate son créneau. Alors, elle recommence, hein, elle s'énerve un peu. Et la sœur Marie-Claude, qui rigole et qui lui dit, écoutez bien, mais t'as eu ton permis dans un paquet Bonux ou quoi? Et ça, là, parce qu'on ne fait plus cette blague-là, mais à l'époque, on avait des cadeaux avec le Bonux, la lessive, et donc on rigolait. Elle nous disait, mais t'as eu ton permis dans un paquet Bonux? La sœur, elle a mal pris ça, ils se sont fâchés pendant 10 ans. 15 ans d'amitié, foutu en l'air pour une blague. Vous voyez un peu? Mais réfléchissez dans vos histoires, réfléchissez dans vos conflits. Vous allez voir que quelquefois, ce n'est pas grand-chose qui a démarré le truc. Mais on aurait dû lâcher l'affaire. On aurait dû dire, c'est pas grave, on ne pense pas différemment, viens ma chérie, on fait un câlin. Mais non ! Là, le mal reprend le dessus. Pas me laisser faire, je vais avoir raison. On argumente, et puis hop ! Et puis là, on commence à dire du tu. Tu vois le tu, le fameux tu qui tue. Vous connaissez le tu qui tue ? tu es comme ça, tu es toujours comme ça. On ressort les vieux dossiers qui n'ont pas été réglés, et puis la journée, elle part en cacahuète. Hein? Et puis ça peut durer un jour, et ça peut durer quelquefois plus longtemps. Et puis quelquefois, on ne se parle plus. Ben, en amitié, on ne se parle plus. C'est comme à la cour de récréation. Ben, tu n'es plus mon copain, ben, tu n'es plus ma copine, parce que tu as dit ça. Voilà. Ça commence comme ça. Donc c'est l'ennemi est toujours là. C'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que l'ennemi ne lâche pas sa proie. Il lâche jamais. Et nous, on est naïfs, et nous, on ne se voit pas, on part dans les conflits, on une phrase comme ci, une phrase comme ça, on pense que ce n'est pas grave, sans qu'on voit que l'ennemi est là. L'ennemi veut détruire ton couple. L'ennemi veut détruire ta relation avec ton ami, avec ta copine, avec ta meilleure amie. Il est là. Et tu ne le vois pas. Toi, tu dis, mais pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Fais gaffe. Fais gaffe. Nous sommes le peuple qui connaissons la vérité. Vous comprenez ça? On connaît la vérité. Faisons pas comme si nous ne connaissions pas la vérité. Et donc, maintenant que tu as Dieu dans ta vie, tu vois, quand tu es en communion avec Dieu, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, sois en communion, aime Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Parce que ce n'est pas une option. Ce n'est pas, je prie le matin une heure, je suis en communion avec Dieu, puis après je sors de chez moi et je n'ai plus de communion. Ce n'est pas, je viens à l'église, et puis ça y est, là je suis spirituel, et puis c'est fini après. Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'on est en communion avec le Seigneur. C'est tout le temps qu'on est en communion avec son esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le loisir de ne pas faire autrement. Parce qu'on a un ennemi redoutable. Je vous le dis, il est redoutable. Il fait des dégâts dans les familles, il fait des dégâts. Vous savez, aujourd'hui, le taux de divorce est passé au-dessus des 50%. Aujourd'hui, il y a plus de divorcés que de mariages qui durent. L'ennemi, il gagne du terrain. Et pourquoi? Parce qu'on se fait piéger. Jean 15, 4, c'est vraiment le verset qui nous incite à être en communion continuellement avec le Seigneur. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire de bien. C'est ça la réalité. À cause de notre cœur tortueux, à cause de cette puissance du péché qui est toujours prêt à agir, nous avons besoin de rester en communion permanente avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu agis avec moi. Et puis, comment ça va se traduire concrètement? Il y a quelqu'un qui vous fait une réflexion, qui vient vous lancer une pique là. C'est une alarme. Et Seigneur, waouh, c'est vrai, pas piquer des hannetons. Waouh, elle fait mal. Prie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que c'est facile de rentrer en conflit. C'est facile d'envoyer tout balader. C'est facile d'avoir la perte de maîtrise de soi. Ça, pour ça, il n'y a pas besoin de Dieu. Ça, c'est notre nature. On est des spécialistes. Mais garder son sang-froid, ne pas prendre l'offense, vouloir choisir la paix, ça, par contre, on a besoin de Dieu. On a besoin du Seigneur. Comprenez ça? Si vous croyez un instant que par vos propres forces, vous allez résister, je vous dis, vous vous trompez vous-même. Connaissez le style, faut pas que je m'énerve. L'autre, il continue, il devrait arrêter, mais il est poussé par un mauvais esprit. Il y a l'esprit qui est là, tu vois. Et donc, il l'attise. Et l'autre, il continue, je m'énerve pas, j'ai promis, je m'énerve pas. Et puis, au bout de 3 minutes, c'est comme une cocotte minute. Elle monte en température. Non, je ne vais pas m'énerver. Puis tout d'un coup, arrête de me parler comme ça. Arrête de dire ça. Tu m'énerves. Vous voyez? L'esprit a réussi. C'est pas comme ça que ça se passe. On est entre nous, on peut le dire. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Pourquoi?
Parce que tout d'un coup, on a cru qu'on allait résister.
Mon œil pèse sur la queue du bonhomme. Et puis tu vas voir comment il réagit. Ben, on a besoin, sérieusement, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a un piège. Quand vous êtes attaqué. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Parce qu'on est... Il y a un côté bisounours en nous. Vous voyez, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents. Donc, dans ta tête, tu dis, mais non, on s'aime, nous. On s'aime. Donc, c'est pas grave. On ne va pas être spirituel, là. On ne va pas être TTS tout de suite pour voir le mal. Ouais. Mais regarde bien les dégâts. Regarde bien les dégâts. Ce n'est pas une histoire d'être TTS. Ce n'est pas une histoire d'être super spirituel. C'est une histoire d'humilité. C'est une histoire de comprendre comment fonctionnent les êtres humains, fonctionnent les relations, de toujours être sur le qui-vive. On va le voir tout à l'heure. Veillez et priez, car le diable rôde. Il rôde, il cherche qui dévorer. Et quand tu commences à ne pas prier, et tu crois, alors évidemment tu n'en as pas conscience, ça se passe tellement vite tout ça, c'est une question de secondes, et tu penses que tu vas résister à tout ça, et bien tu vas ouvrir la porte à l'ennemi. Et ça ne va pas louper. Et puis tu vas être mal pour la journée, tu vas être mal, ça va mal se passer au travail, ça va mal se passer si c'est dans ta famille, où tu vas, et tu vas être mal pour la journée. Ce sont nos relations qui décident si on passe un bon moment ou si on passe une mauvaise journée. C'est nos relations. Tout est une question de relations. Analysez votre vie et vous allez voir que ça tourne aux relations. Le matin, soit vous pouvez vous fâcher à la maison avec votre mari, vous pouvez vous fâcher à la maison avec vos enfants, avec votre épouse. Arrivé au boulot, vous allez encore avoir des collègues, vous allez avoir le patron, vous allez avoir, je sais, c'est tout le temps. C'est ça notre vie. Ça tourne autour des relations. C'est pour ça qu'on n'a pas le loisir d'être naïf si on veut garder sa paix. Si on veut pouvoir être des artisans de paix et de dire, moi j'ai choisi. Mon camp, je veux être en paix. Je ne rentre pas dans les conflits. J'évite les conflits. Mais je le fais par la puissance du Saint-Esprit. La réponse de Jésus, donc, concernant nos relations, c'est les trois sortes de relations qu'il a vues, qu'il a données, c'est-à-dire aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ça fait trois relations. On a notre relation avec Dieu, on a notre relation avec nous-mêmes et on a la relation avec les autres. Et c'est la clé, elle est là. La clé, elle est là. Aimer Dieu, nous aimer aussi, aimer les autres. Parce qu'on ne pourra pas aimer les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes. Parce que le verset dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu vas avoir du mal à aimer les autres. Donc, il y a aussi une guérison à aller chercher sur nous. Quand je dis à quelqu'un, répète-moi, tu es une merveilleuse créature. Personne, elle bloque. La plupart du temps, la personne, elle bloque. Mais tu es une merveilleuse créature. Ce n'est pas toi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Et quelquefois, Dieu a une meilleure vue sur nous que nous-mêmes. Bon, on verra ça en temps et en heure, mais comme quoi, ce qu'on a dit sur nous a porté du fruit, mais pas du bon fruit. Donc, aimer, ici, vous voyez, j'ai mis entre parenthèses, agapé. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu. Comprendre que aimer son prochain comme soi-même, ça relève de l'amour de Dieu et pas de notre amour à nous. Nous n'avons pas les capacités d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. On a un certain amour, mais il est conditionnel. D'accord ? C'est-à-dire que ça va dépendre un petit peu de l'humeur, ça va dépendre un petit peu de l'autre, comment il nous parle, comment il nous répond. En fait, il y a beaucoup de conditions pour que nous, on aime. Et l'amour qu'on a ici, l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est l'amour, quand Jésus va à la croix, il nous aime sans rien nous demander, sans qu'on ait rien prouvé. Lui, il a fait le boulot, il s'est sacrifié à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il nous a aimés sans rien attendre en retour. Ça, c'est divin. Pour nous, c'est impossible. Pour nous, c'est « je t'aime parce que ». Parce que. Parce que si, parce que ça, tanani, ninana. Il y a toujours une explication. Hein? Et dans les couples, On le voit bien. L'amour, ça marche tant qu'on va dans le sens de l'autre. Quand vous n'allez plus dans le sens de l'autre, ça commence à se gâter un petit peu. On n'a pas cet amour inconditionnel. Donc, c'est encore une fois agapé. C'est quoi l'agapé? L'agapé, c'est le résultat du fruit de l'esprit. Vous voyez, l'esprit de Dieu donne du fruit, porte du fruit dans notre vie. Et ce fruit-là, eh ben, c'est l'amour. Et c'est agapé. Donc, quand on est en connexion avec Dieu, en réalité, on reçoit cet amour de Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé à être toujours en connexion avec Dieu. Parce que tant qu'on est en connexion avec Dieu, on reçoit cet amour de Dieu. C'est Romains 5,5 qui le dit. Romains 5,5, c'est l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Ce n'est pas nous qui faisons le job. C'est que nous, on est simplement en connexion avec Dieu. Et on est branché en permanence à la bonne source. Parce qu'il y a plusieurs sources d'amour. Il y a l'amour avec les hommes, l'amour avec les êtres humains, mais ce n'est pas la bonne source. La bonne source, c'est l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu es branché sur le Saint-Esprit, tant que tu es en communion avec le Saint-Esprit, son amour est répandu en toi, et alors là, tu es plus que vainqueur. La puissance du Saint-Esprit est en toi. Vous voyez, quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, quand on parle d'être rempli de Dieu, quand on parle que le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit te remplit, il te rend capable. Il te rend capable. Quand j'allais à mes rendez-vous, bon, ça diminue parce que, merci Seigneur, je vais être en retraite. Alléluia. Mais avant, je travaillais dans le bâtiment et je m'occupais des maisons des gens. Et je peux vous assurer que c'est très anxiogène. Les gens, c'est normal. Hein, ils prennent 25 ans de crédit. Ils s'inquiètent beaucoup pour leur maison. Hein. Et moi, j'étais coordinateur, donc c'est moi qui coordonnais les différents corps de métier, hein, les artisans. Mais forcément, ça ne se passe pas toujours bien, hein, parce que sinon, on le saurait, hein, et surtout les maisons. D'accord. Donc, les gens sont très anxiogènes. Et qui est-ce qu'ils ont comme interlocuteur? Ben, Bibi. Okay. Et donc, ma matinée, ça, c'était d'aller de rendez-vous en rendez-vous, de chantier en chantier, aller voir les gens qui s'inquiétait, qui était stressé. Oui. À chaque fois que j'allais à rendez-vous, je priais dans la voiture, parce que ben, de rendez-vous à rendez-vous, j'avais ma voiture, la louange à fond les gamelles, et je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sais pas, alors, des fois, en plus, j'avais eu la personne au téléphone, déjà, je sentais déjà qu'elle était à fond les gamelles, donc j'ai dit, ça va être chaud. J'ai dit, Seigneur, le rendez-vous, là, il est chaud. Là. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais garde-moi, garde mon cœur, garde-moi, donne-moi les arguments et calme les gens aussi, Seigneur. Mais c'est incroyable. Je vous dis, c'est miraculeux comment le Seigneur est à l'œuvre. Je sortais de là, ça se passait bien. Je reprenais ma voiture, la louange, prochain rendez-vous, je dis, Seigneur, alléluia, ça s'est bien passé. Et c'était miraculeux, c'est incroyable. Parce que d'autres personnes on serait rentrées en conflit parce que tout prêtait au conflit. Mais parce que j'enseigne ça, parce que je le mets en application. Je sais comment fonctionne l'être humain. Et on apprendra à désamorcer un conflit. On apprendra à arriver à dire, déjà, mais je vous comprends, il y a un problème. Okay? Mais il faut être sécure. Et quand Dieu est avec toi, tu es sécure. Le problème, c'est que les gens, quand ils n'ont pas Dieu avec eux, ils ne sont pas sécures. Ils se sentent menacés. Et quand les gens aboient après toi, tu es menacé. Et comme un chien, tu vois, comme un petit roquet, comme mon chien, là, tu vois, eh bien, quand on t'aboie dessus, là, eh bien, tu as tendance à faire comme eux et tu dis, oh, qu'est-ce que tu veux? Mais ça, c'est facile, ça. Ça pour moi, il n'y a pas d'effort à faire. Tu me cherches, je suis là. Tu vois, heureusement que Dieu m'a changé. Tu vois, et que maintenant, je ne m'affole pas. Mais pourquoi? Parce que je suis sécure à l'intérieur de moi. Mon identité, elle est en Christ. Elle est pure en Bertrand Frémont. Elle est en Christ. Et ça veut dire que quand les gens viennent vers... Ils n'ont plus affaire à moi. Ils ont affaire à Jésus-Christ qui vit en moi. Oui. Et ça s'applique dans toutes les relations humaines. Ça s'applique dans tous les conflits. C'est Jésus qui vit en moi. Moi, je suis mort à moi-même. Il y a encore du boulot. Mais j'essaie tous les jours de mourir un peu plus. Je meurs à toi-même. Le défi des relations. Nous sommes appelés. Alors regardez bien, c'est toute cette contradiction là. C'est ça la relation d'aide. C'est passionnant parce que c'est ce qu'il y a de plus excitant sur cette terre. C'est d'arriver à aimer des êtres humains qui sont extraordinairement compliqués. Des êtres humains qui sont infidèles, qui sont méchants et sur qui nous ne pouvons pas mettre notre confiance. C'est-à-dire des êtres humains qui sont parfaitement imparfaits. Waouh ! T'es Seigneur, j'ai besoin de toi. Relevez le défi des relations. Relevez le défi des relations. C'est une folie pour les hommes. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Amen. C'est ça la vie avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur, c'est une vie surnaturelle. Une vie à aimer les gens qui ne sont pas aimables. À aimer les gens qui disent du mal sur toi. À aimer les gens qui te trahissent. Ouf, allez, vous souffrez là déjà. Ouf, c'est chaud, hein? Mais c'est extraordinaire parce que c'est possible. C'est possible en Dieu. C'est possible avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est ça qui est génial. Oui, c'est ça qu'on va voir pendant toutes ces 12 étapes-là. On va voir que, en fait, cet amour-là, écoutez bien, cet amour-là, parce que je suis branché à la bonne source, cet amour-là, il coule en moi. Vous voyez un robinet? Vous ouvrez un robinet. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Vous avez ouvert le robinet. Ça s'appelle la volonté. D'accord? Ma volonté, c'est que l'amour de Dieu coule en moi. Donc, je prie le Seigneur et je dis, Seigneur, déverse ta grâce en moi. Déverse ton amour en moi. Mais ce n'est pas une finalité. Vous comprenez? Sinon, ça va se boucher. C'est comme la mer morte. Il faut que l'eau coule et elle coule. Si elle s'arrête, eh ben, vous voyez bien, une eau qui stagne, c'est pas bon. Donc, on est branché à la bonne source. L'amour de Dieu coule en moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia! Moi, je le crois. La Bible le dit, je le crois. Mais ce n'est pas fini. Elle coule en moi. Et comme c'est vivant, comme c'est quelque chose de vivant, c'est pour donner aux autres. C'est pour donner, donner. Et ce n'est pas mon amour. Ça ne va pas me faire mal aux tripes. Si, au bout du compte, c'est injuste, c'est pas normal, il y a de l'infidélité, je suis gentil avec elle, elle n'est pas gentille avec moi. C'est pas mon amour, ça m'a rien enlevé. C'est l'amour de Dieu. Ok? Et j'ai décidé d'aimer. La grande différence, c'est que j'ai décidé d'aimer. J'ai décidé de donner. Et c'est pas en fonction de la réaction de l'autre. Il n'y a qu'en Dieu que vous pouvez trouver ça. Vous ne trouverez pas ça dans le monde. Vous trouverez ça dans votre communion avec le Saint-Esprit. Un amour qui vient de Dieu, surpuissant. Un amour qu'on a du mal à cerner. Un amour qu'on prend, parce que c'est la grâce de Dieu. On le prend. Il vient en nous. Regardez ça. Il déverse sa grâce en nous. Il nous guérit. Et après, il va guérir les autres parce qu'on le donne aux autres. Vous devriez dire, waouh ! Mais oui, c'est extraordinaire. C'est puissant. Et c'est vrai. Comment continuer à aimer celle qui vous a trahi ? Pas avec votre amour. Non, mais avec l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas elle. La personne qui vous a trahi, ce n'est pas elle qui décide de votre vie. Celui qui décide de votre vie, c'est Dieu. Donc, le comportement de l'autre, le prochain, mettez ce que vous voulez avec l'autre. Le comportement de l'autre n'a pas le pouvoir de décider de ce que vous allez faire. Vous n'êtes plus esclave des êtres humains. Vous appartenez à Dieu. Donc, les êtres humains peuvent faire ce qu'ils veulent. Et le cœur tortueux fait que, oui, ils font ce qu'ils veulent. Et même, des fois, n'importe quoi. Mais vous avez une décision que vous avez pris, cette décision, c'est d'aimer. Et qui peut t'empêcher d'aimer? Personne. Et surtout pas le diable. Il ne peut pas t'empêcher d'aimer. Cet amour de Dieu, tu vois, à la croix, il a dit une phrase que nous, on devrait répéter à chaque fois. Père, pardonne-leur, elle ne sait pas ce qu'il fait. Ta copine qui te trahit, Père, pardonne-la, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ce que je vous dis là, on va le voir en détail. Mais déjà, prenez-le comme acquis. C'est fondamental. C'est fondamental. Pourquoi? Pourquoi c'est fondamental? Parce que l'ennemi a essayé de vous blesser. Il a essayé d'amener dans votre cœur une offense. En étant déçu du comportement de votre meilleur ami. Mais il est en train de rater son coup. Parce que vous lui dites, moi je continue à l'aimer. Et la porte est fermée à l'ennemi. C'est spirituel ce que je suis en train de vous expliquer. C'est complètement spirituel, mais c'est puissant. Parce qu'à l'inverse, vous savez ce qui se passe à l'inverse? Je vous fais le sketch, vous allez voir. Vous êtes blessé par votre ami. Et c'est pas normal. C'est pas normal. L'ennemi, n'oubliez pas, on le verra tout à l'heure avec un verset. Il a la capacité de rentrer dans vos pensées. Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne le voyez pas arriver. Mais dans votre blessure, là, vous êtes blessé. Là. Et là, dans votre blessure, l'ennemi, il vient, il fait, c'est pas normal. Tu te rends compte? C'est pas normal ce qu'elle t'a fait. Et là, c'est facile. Vous avez quelqu'un qui vous comprend. Et là, vous dites, c'est vrai. C'est pas normal ce qu'elle m'a fait. Elle va le payer d'une manière ou d'une autre. Et là, ça y est. La porte est ouverte. L'ennemi n'a plus grand-chose à faire. Juste de vous dire, t'as vu un petit peu? T'as vu? Alors que tu lui as donné toute ta confiance. Alors que quand elle n'était pas bien, t'étais là pour elle. Et là, regarde aujourd'hui comment elle te traite. Incroyable. Et toi, tu vois pas que c'est spirituel. Toi, tu vois juste la blessure qui arrive et l'ennemi, pow, il a juste enfoncé un peu la porte. Tu comprends? Et tu tombes dans le piège. Et ton cœur va partir en miettes. Ton cœur va être meurtri. Et tu vas être mal. C'est ça que l'ennemi veut faire. T'amener à faire des choix destructeurs. Des pensées destructrices. De façon à ce que tu sois mal, que ton cœur, qui est la vie, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie, il a gagné une bataille. Ton cœur est abîmé, ton cœur n'est plus pur pour recevoir cette eau qui vient de Dieu et tu tombes dans le piège de l'offense. Et là, on verra ça un peu plus tard, là, c'est la clé pour l'ennemi pour venir là souiller ton âme, détruire ton âme, détruire ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui se passe à l'intérieur de l'homme, c'est que quand tu es blessé, tu génères de l'amertume. Et l'amertume, c'est le poison de l'âme. Donc, alors que c'était justifié que tu fasses que tu aies cet attitude-là, humainement parlant, eh ben, tu te fais piéger, double peine, tu as été trahi, mais c'est pas fini. Maintenant, tu vas boire l'amertume. L'ennemi est en train de semer de l'amertume dans ton cœur, des rejetons d'amertume, comme dit la Bible. Et cette amertume-là, elle va travailler dans ton cœur. Et là, tu vas être mal et de plus en plus mal. Et le piège se referme. Et tu es mal. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça va? La clé, elle est de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi et de continuer à aimer avec l'amour de Dieu. La clé, elle est là. Elle t'a fait ça? Dieu, Jésus à la croix, il a supporté. Et c'était injuste ce qui lui est arrivé. Mais il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, tu te rends service à toi-même. Et à cet ami-là, tu pries dans ta chambre et tu dis, Père, pardonne-la parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et moi, je le crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est influencée par l'ennemi. Et si toi, tu continues à lui donner de l'amour, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de décider si tu arrêtes de l'aimer ou pas, mais c'est ta décision à toi, eh ben, elle reviendra à un moment en disant « Excuse-moi, j'ai mal agi. » Et là, tu verras si tu continues la relation. Là, tu verras si la relation, eh ben, tu t'es aperçu que tu ne peux pas lui faire autant confiance. Enfin bref, tu verras tout ça. Mais tu auras protégé ton cœur. L'essentiel. Est-ce que vous comprenez ? Que notre cœur, il est trop important pour le confier à des êtres humains. À des êtres humains qu'on aime, mais qui ont un cœur tortueux. Comprenez pourquoi il ne faut pas être naïf ? Vous comprenez pourquoi il faut être rempli de l'esprit ? Pour toujours pouvoir avoir cette armure qu'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est une armure. C'est par l'amour de Dieu que tu vas te protéger. C'est par l'amour de Dieu que tu vas protéger ton cœur. Parce que Dieu, lui, il aime toutes ses créatures. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais il aime ses créatures. Et ta copine, tu l'aimes. T'as pas aimé ce qu'elle t'a fait, mais par contre, tu l'aimes. Parce qu'on crée des liens. Et les liens ne s'en vont pas comme ça, comme par magie. Amen ? Ça, si vous retenez que ça sur les 12 étapes, vous avez retenu l'essentiel. Alors, nous avons une histoire commune. Il faut comprendre que nous sommes abîmés. Le péché, la puissance, pensez quand on dit péché, pensez à puissance. Puissance destructrice. Le péché a travaillé dans chacun d'entre nous. On est né dans le péché. Ce n'est pas de notre faute. On est né dans le péché. D'accord ? Donc, on va à la fois subir un péché qui se transmet de génération en génération. Des dysfonctionnements. Il suffit quelquefois d'analyser ce qui s'est passé chez quelqu'un et puis de regarder, puis de dire « Ah, tiens, c'est marrant, son père était pareil. » Si vous prenez mon cas, par exemple, on est une famille d'alcooliques. Et moi, quand j'étais plus jeune, ma mère tenait un bar et j'avais une facilité à prendre l'alcool. Et en fait, je n'ai même jamais fait le rapport avec mon père. Mais mon père était un alcoolique. Et mon père était méchant. Il tapait ma mère quand il avait bu. Et donc moi, jamais j'aurais voulu être alcoolique parce que c'était ce que j'avais en horreur. Et bien, sans m'en rendre compte, j'avais une capacité à encaisser l'alcool. Et mon père venait d'une génération de bouilleurs de cru. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Chez nous, dans le Calvados, on fait cuire la pomme pour qu'elle devienne un alcool. Et ça s'appelle des bouilleurs de cru. Et donc, les gars, c'était leur boulot dans ma famille, mes descendants. Ils passaient de ferme en ferme avec la roulotte, les chevaux, et puis ils faisaient la cuite. Mais avec les vapeurs et tout ça, ils étaient tous bourrés à la fin de la journée. Parce que même, ils n'avaient pas besoin de boire. Simplement, tout ce qui sortait de la machine, ça suffisait pour être bourré. Mais en fait, ça a donné des alcoolos. Vous voyez ? Donc, il y a plein de traits comme ça que j'ai reconnus dans mon père. Quand je suis devenu chrétien et que je suis rentré dans les soins pastoraux, moi aussi, je suis passé par la restauration. Et quand j'en suis arrivé là, j'ai dit mais mon père avait ça. Mais c'est vrai, mais mon père faisait ça. Et là, je me suis dit, waouh ! Et il y a beaucoup de gens qui disent, moi, jamais je voudrais ressembler à ma mère. Et puis avec l'âge, venant, ils s'aperçoivent qu'ils ressemblent de plus en plus à leur mère. Ah, au secours ! C'est parce que ça se transmet de génération en génération. Donc, il y a cette première partie-là, d'accord ? Et puis après, il y a nos expériences de cette vie, malheureusement. Ce qu'on va vivre sur cette vie. Et donc, tout ça forme notre histoire qu'il faudra qu'on regarde en détail parce que ça a besoin d'être nettoyé. Ça a besoin que le Saint-Esprit passe sur tout ça pour qu'on soit libéré de tout ça. Parce que si vous ne le faites pas, ça sera plus fort que vous, ça sera une puissance qui est en vous et elle vous empêchera de développer votre potentiel complet. Il faut que ça soit nettoyé. On va en reparler tout à l'heure. Donc d'abord, l'être humain, il est rempli, le premier dé, c'est la déception. Ça, c'est le classique des êtres humains. J'ai mis ça avec un anacronyme qui s'appelle trahi. Vous voyez ? Ça, on a rassemblé ça, c'est les 5 blessures de la vie. Et personne n'y échappe. Tout le monde a le droit à son petit lot. C'est un cadeau. un cadeau de l'ennemi. Tout le monde a le droit à son petit lot. Les trahisons, les rejets, les abandons, les humiliations, les injustices. Personne n'y échappe. Et c'est pour ça que j'ai précisé « commune ». Parce qu'un des pièges de l'ennemi, c'est de croire que toi, tu es différent des autres. Toi, tu as été abandonné. Toi, tu as été rejeté. Ben, parce que tu n'es pas bonne. Parce que tu es quelqu'un de détestable. Tu es quelqu'un qui ne mérite pas. Voilà comment il arrive à piéger les gens. En disant, mais tu ne mérites pas tout ça, toi. C'est pour ça qu'on t'a rejeté. C'est pour ça que tu as été abandonné. C'est pour ça. C'est pour ce que tu es. Et il essaye de nous coller des étiquettes. Il essaye de nous amener à avoir une identité qui va se construire par rapport à nos mauvaises expériences, par rapport à nos blessures. Oui. Et ça, il faut le démonter. Parce que ça, c'est que le péché qui a fait ça. Et tout le monde y est. Donc, on ne peut pas se définir par rapport à ce qui nous est arrivé. Chose que les gens veulent faire avec nous. L'être humain doit gérer aussi les déboires de sa vie. C'est-à-dire les échecs qui ont été mal digérés, ces mauvaises expériences, les mauvaises circonstances de la vie. Comme je dis souvent, mauvais endroit au mauvais moment. Et qui ont construit sa vie, amené une perte de confiance en soi, une mauvaise estime de soi. Toutes ces expériences qu'on a vécues, depuis qu'on est petit, si ce n'est pas revu à la lumière du Saint-Esprit, ça peut vous handicaper pour toute votre vie. Sur une mauvaise image de vous, sur une mauvaise estime de vous. Et ça a été amené, parce que tout ça, c'est stratégique pour l'ennemi. Ce qu'il veut, c'est vous perdre. Et là, une des plus grandes difficultés des êtres humains, c'est d'avoir une bonne image d'eux-mêmes, une bonne estime d'eux-mêmes. C'est une complexité. L'être humain va faire des efforts et des efforts et des efforts pour essayer de donner une image de lui, mais à l'intérieur, c'est détruit. Et c'est fragile, parce que c'est que de l'apparence. Et nous sommes dans ce monde-là, nous sommes dans ce monde d'apparence, hein, où on donne une certaine image de soi pour préserver l'intérieur. Mais en fait, l'intérieur est détruit. Parce que l'intérieur n'a pas été construit sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Donc c'est normal. On ne connaissait pas, on n'est pas né chrétien. On le devient. Donc, il y a tout ce travail qu'on verra dans la relation à soi-même où il faut comprendre qu'on a été victime de tout ça. Mais que c'est pas ce qui compte. On est bâti sur du mensonge. On n'est pas bâti sur la vérité. On est bâti sur des mensonges. Donc il va falloir démonter le mensonge pour qu'on fasse la paix avec soi-même et s'accepter tel que nous sommes. Et changer par la grâce de Dieu au fur et à mesure de notre vie. Vous comprenez ça? Accepter qui nous sommes et transformer de gloire en gloire par le Seigneur. L'être humain doit composer avec ses défauts, qui sont les conséquences directes du péché. L'exagération d'une qualité. Pour l'autorité, qui était celle de l'homme, quand ça a été créé, eh ben en réalité, ça se transforme en colère. La femme, qui était créée avec de l'influence, ça s'est transformé en contrôle. L'acceptation, ça se transforme en abus, etc., etc., etc. Et là, c'est important de mettre ça à jour. C'est important de comprendre là où le péché nous a touchés. Pourquoi? Parce qu'il va falloir l'amener au Seigneur. Et là, on verra ça. On a une barrière à dépasser qui s'appelle la barrière du déni. On est tous victimes du déni. Et le déni, c'est qu'on ne le voit pas. Je vous dis quelque chose qui va vous surprendre, mais vous ne voyez pas vos défauts. C'est les autres qui voient vos défauts. Mais vous, vous ne les voyez pas parce qu'il y a une barrière en nous qui s'appelle le déni, qui est une forme de protection et qui fait que on ne voit pas ce qu'on est. Et quand les autres te le disent, tu ne le crois pas. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui te le disent. Donc, on finit par dire, peut-être que c'est vrai. Mais c'est très difficile. Et quand, en plus de ça, vous avez une mauvaise image de vous-même, que vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous n'êtes pas enclin à reconnaître que vous avez en plus des défauts. Donc, ça met un frein. Donc, il faut régler aussi ce problème de défaut. Ensuite, on doit faire face à de nombreuses dépendances. Tout le monde est dépendant de quelque chose. C'est la conséquence de notre séparation avec Dieu. La Bible parle de citernes crevassées. Les citernes crevassées, le Seigneur parle dans Jérémie et il dit « Vous m'avez remplacé par des citernes, mais ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et en fait, ce sont des, pour imager, c'est une image où en fait, les citernes, c'est des endroits où on reçoit du plaisir. On a du plaisir et on est fait avec cette fibre-là. On a besoin d'amour, on a besoin de choses qui viennent rencontrer nos besoins. Mais on n'a pas Dieu et c'est qu'avec, dans la source de Dieu qu'on rencontre nos besoins profondément. Mais comme on ne connaissait pas Dieu, les conséquences de la séparation, eh ben, on a été chercher de l'amour ailleurs, on a été chercher du plaisir ailleurs, sauf que ce sont des citernes crevassées, ça ne retient pas. Et donc finalement, ça tombe comme dans un puits sans fond, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et on n'est jamais rassasié. Mais on en veut toujours plus, et c'est pour ça qu'on appelle ça une dépendance. Et en général, eh bien, les dépendances nous entraînent dans quelque chose de destructeur. Ensuite, nos problèmes de délinquance, notre manque d'obéissance, nos attitudes de résistance à l'intérieur de nous, on a beaucoup de mal à dire oui, on a beaucoup de mal à reconnaître nos torts, nous contestons bien souvent la parole de Dieu et la rébellion, la délinquance fait partie de la nature humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez autant de personnes qui résistent à venir à Dieu et qui ne veulent pas venir à Dieu parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont dans cette rébellion. Ils sont dans cette, on appelle ça la délinquance pour rester dans les 6D. En fait, c'est de la rébellion. Ils ont du mal à reconnaître qu'ils se sont trompés. Ils ont du mal à reconnaître qu'ils ont tort. Ils ont du mal à reconnaître qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Ils sont dans cette rébellion. Et enfin, on est rempli de dysfonctionnements, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements que les autres voient et pour lesquels nous sommes complètement aveuglés et qui ont des répercussions dans nos relations avec les autres. Donc, vous voyez, tout ça, on appelle ça les 6D. Et les 6D, la restauration, c'est mettre tout ça à jour, les 12 étapes servent à ça, mettre à jour, nettoyer les conséquences du péché dans notre vie. Et je dis souvent, sortir les squelettes du placard. Il faut qu'on sorte les squelettes du placard. Donc, c'est 3 mois, c'est comme une bulle dans votre vie, c'est comme un moment, une retraite spirituelle, c'est comme à un moment de votre vie où il y a un stop qui se fait. Pendant 3 mois, vous rentrez dans cette bulle spirituelle de restauration. Il y aura un avant, un après. On nettoie tout ce qui nous est arrivé. On comprend mieux la vérité, on comprend mieux ce que dit la Bible sur notre vie. On pardonne ce qu'il y a à pardonner, on accepte qui on est et on change nos relations avec les autres. Donc en fait, c'est une transformation. En 3 mois, ce sont des étapes qui nous amènent à changer de ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire un changement de conception, un changement d'habitude, une façon de voir les choses différentes et qui est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Donc c'est un gros boulot. C'est un gros boulot et c'est pour ça que toutes les semaines, je vais vous mettre un petit questionnaire pour vous aider à avancer. Le travail, c'est vous qui le faites. Si vous êtes sérieux, que vous travaillez bien comme il faut, vous prenez du temps dans cette semaine-là, parce que c'est toutes les semaines, c'est-à-dire que la semaine d'après, on passe à autre chose. Donc, c'est des semaines assez remplies dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit, où vous travaillez sur ben, là où on est, dans l'étape dans laquelle on est. Si vous faites bien le boulot, vous allez, pendant 3 mois, ça va être du boulot, mais vous ne serez plus la même personne, vous serez transformé. Amen. Donc, je vous encourage à venir le vendredi soir. Pas toujours facile parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas en forme, je connais. Hein. Et mais je vous encourage à dire non, c'est 3 mois sérieux pour moi. Je veux plus que mon passé a autant d'impact dans mon présent. Je veux vraiment nettoyer tout ça. Je veux plus me sentir coupable. Je veux plus sentir la honte. Je veux être libre. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire ce soir. Faites l'effort pendant 3 mois. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements qui vont apparaître dans votre vie. Les gens qui ont fait le vase restauré pourraient témoigner et vous dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Hein? Mais ce n'est pas des prédications comme vous avez l'habitude d'entendre, c'est complémentaire. On n'oppose pas les choses. C'est complémentaire aux prédications qu'il y a dans l'Église, que les pasteurs apportent et tout ça. Simplement que là, on prend un temps pour soi-même, là, où on dit « Waouh, ça y est Seigneur, je comprends. Le péché a fait des dégâts dans ma vie. » Mais ce n'est pas fini. C'est une bataille. Maintenant, Seigneur, moi, je ne veux plus que le péché ait d'impact dans ma vie. Et je veux apprendre à gérer mes relations avec les autres. C'est tout ça qui est en jeu. Vous allez devenir des guerriers d'élite, de la communication. Des guerriers d'élite. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous faire piéger comme avant. Vous allez comprendre un petit peu comment l'ennemi, quelles sont les armes de l'ennemi. Et nous allons revêtir les armes de l'esprit. Comme le dit dans Éphésiens 6, revêtez-vous des armes de l'esprit. Parce que c'est un combat. Et moi, je veux vous amener à prendre conscience de ce combat-là. De ne pas être dans la naïveté. De ne pas être dans le bisounours. Et de comprendre qu'il y a un vrai combat. Et ce combat, c'est celui des relations. Et les relations, en fonction de la qualité de vos relations, vous dépendrez de la qualité de votre vie. Votre vie va dépendre de la qualité de vos relations. Si vos relations sont toxiques, si vos relations sont pourries, désolé, mais votre vie ne sera pas terrible. Mais si vous soignez vos relations, si vous savez entretenir les relations, si vous savez comment les gérer, et on reviendra sur les relations toxiques, ne t'inquiète pas. De temps en temps, il faut savoir qu'il y a des relations toxiques, qu'on ne peut rien faire et que malheureusement, le péché a tellement fait de dégâts que ben, malheureusement, il faut vivre avec. Mais déjà, si vous soignez vos relations déjà, eh ben, votre vie va changer. Je vous le dis, moi. Amen. Amen. Vas-y, parle encore un petit peu, je bois un coup. Ah. La parole de Dieu nous éclaire sur la nature des êtres humains que nous sommes appelés à aimer. La parole de Dieu, c'est la vérité. On n'a rien inventé, nous. D'accord ? C'est simplement qu'on met en évidence la vérité qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui va nous servir pour gérer nos relations. La parole de Dieu nous éclaire sur la nature des êtres humains que nous sommes appelés à aimer et à accepter comme ils sont. Lisez bien la dernière phrase. À aimer et à accepter comme on veut. Non, c'est un leurre, comme ils sont. Ça ne sert à rien de vouloir aimer les gens comme nous on veut, ça ne marchera pas. On n'a pas de pouvoir. Jérémie 17,5 dit ceci, c'est « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » On est appelé à aimer les gens, à aimer les êtres humains, mais aimer ne veut pas dire qu'on va mettre toute notre vie dans leurs mains. C'est ça la grande différence. Parce que nous qui sommes chrétiens, notre vie, elle ne nous appartient plus, elle appartient à Dieu. Donc, c'est plus un être humain sur qui on va faire reposer notre vie. On va regarder la fenêtre de Johari. Vous allez comprendre. J'aime bien cette fenêtre-là parce qu'elle explique vraiment l'être humain, la complexité de l'être humain, comment on doit avoir conscience des autres, de les aimer comme ils sont. Mais c'est quoi comme ils sont? C'est quoi aimer un être humain comme il est? Quand on le sait, on l'accepte et on fait avec. On continue d'aimer, mais on n'est plus naïf. La fenêtre de Johari, elle nous explique quatre carreaux qui constituent l'être humain tel qu'il est. Donc, un être humain, le premier carreau, il est connu de soi, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est et il est connu des autres. Donc, c'est ce qu'on voit. On connaît quelqu'un. Moi, je le connais. Il est gentil, il est sympa, c'est un gars, tu vas voir. Donc, on connaît une partie de lui. La deuxième chose, le deuxième carreau, un être humain ne connaît pas des choses en lui que les autres connaissent. Est-ce que ça va, ça? Les autres connaissent des choses sur toi, mais toi, tu ne le sais pas, parce que tu ne le vois pas. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, la barrière du déni. D'accord ? Donc, tout le monde en parle. Hein, on parle de, je pense à une sœur, là, tout d'un coup, mais je ne dirai pas le nom. On sait comment elle est, mais elle, elle ne le voit pas. Mais tout le monde la connaît. Oui. Ensuite, là, ça commence à se gâter. C'est les choses cachées. Les choses cachées, c'est les choses que moi, je sais sur moi, mais vous, vous ne les connaissez pas. Et ça, ça c'est la fameuse phrase quand il se passe quelque chose. Non, pas lui. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Oui. C'est quelque chose que la personne, elle a en elle. C'est des dysfonctionnements. C'est des dépendances. C'est des choses cachées. Et que lui sait et que toi, tu ne sais pas. Et où est-ce qu'on le voit le plus ? D'après vous ? Hein ? Non, dans le mariage. Vous connaissez l'adage du mariage. Hein ? Le mariage, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Vous connaissez ça ? C'est-à-dire que l'amour rend aveugle, alors c'est une autre sorte d'amour, hein, on a vu Agapé tout à l'heure, là c'est une autre sorte d'amour qu'on appelle Eros. Et Eros, qui vient de érotique, Eros a une particularité, c'est qu'il te rend aveugle. C'est-à-dire que tu ne vois pas l'autre tel qu'il est. Tu dis, waouh, waouh, Seigneur, merci, merci, merci. Waouh, j'aurais jamais cru. C'est ça, Eros, tu vois. Sauf que les autres autour de toi, ils te disent, tu sais, tu devrais faire attention, parce que, oh, ça y est, elle est jalouse. Tu vois pas, tu vois. Sauf que quand tu rentres dans le mariage, là, tout d'un coup, tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne que j'ai mariée ? Parce que là, il y a des choses qui vont apparaître. Évidemment, entre voir quelqu'un 2-3 fois par semaine pour les bons moments et puis vivre avec lui 365 jours, 24 heures sur 24, je t'assure qu'il y a une sacrée différence. Et donc, tout ce qu'il ne t'a pas dit avant, eh ben, tu vas le voir après. Mais il sera trop tard. Donc, c'est les choses cachées d'un être humain. Et puis, la dernière chose, c'est un dernier carreau qu'on découvre sur nous-mêmes, que les autres ne connaissent pas, mais moi non plus, je ne connais pas que j'étais capable de faire ça, positif ou négatif. Okay ? Donc, c'est important de comprendre la fenêtre de Johari, parce que c'est la complexité d'un être humain. L'homme livré à lui-même. Le carreau 3 et 4 nous révèlent le cœur de l'être humain. Méchanceté, dispute, jalousie, trahison, infidélité, violence, vengeance, atrocité, inceste, viol, la capacité de faire mal à l'autre. C'est ça la réalité. Okay ? Je ne veux pas que vous soyez naïfs. C'est que l'être humain est comme ça. Et le défi, c'est de l'aimer tel qu'il est. On respire un bon coup. L'amour de Dieu qui coule en nous, va nous rendre capables d'aimer les êtres humains. Heureusement que nous avons Dieu et qui nous permet de nettoyer toutes ces fenêtres-là, d'amener ça à Dieu pour qu'il guérisse et avec le Saint-Esprit de faire attention à ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui est sous l'influence de Dieu, alléluia, mais ici. C'est le travail qu'on va faire. Le travail qu'on va faire qui est caché en nous. C'est ce qui va s'appeler l'étape 5, la confession. Confesser nos misères. Confesser là où le péché nous a attaqués, nos dysfonctionnements. Il va falloir mettre ça à jour pour être libéré de ça. Et pour ne pas vivre caché toute notre vie. Vous avez des chrétiens qui n'ont jamais fait la restauration et donc ils ne connaissent pas tous ces principes-là, mais ils sont là. Ils sont là. Et ils ne s'en sont pas débarrassés. Parce que ça ne se débarrasse pas comme ça. Parce qu'il faut l'amener à Dieu. Il faut le reconnaître. Il faut ne plus en vouloir. Et il faut l'amener à Dieu. Bartimée, que veux-tu que je te fasse ? Bartimée était aveugle. C'était facile à voir. Mais Jésus lui a posé la question. Il a dit, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Jésus ne fera jamais quelque chose qu'on lui demande pas de faire. C'est notre volonté. Dieu nous aime trop pour ne pas respecter notre volonté. Tu restes dans ton péché, mais tu restes dans ton péché, avec ses conséquences. Mais la vie du chrétien, c'est petit à petit, et c'est ça la sainteté, c'est ça une vie de sainteté, c'est que petit à petit, le péché n'a plus d'impact dans ta vie. Et que petit à petit, tu te libères de tes dysfonctionnements, tu te libères de tes dépendances. Mais beaucoup de chrétiens sont dans le carreau numéro 3. Ils cachent les choses aux hommes, mais tu ne caches pas les choses à Dieu. Quelle relation tu as avec Dieu? Tu n'as pas une relation de sincérité. Tu es en train de jouer aux chrétiens. Tu es un religieux, mais tu n'es pas un disciple de Jésus. Et là, je le dis sans méchanceté, je le dis sans culpabilité. Je prends les faits tels qu'ils sont. Et ça, là, ce n'est pas forcément la finalité de quelque chose. Combien de personnes sont venues à Jésus et ont été délivrées de leur dépendance? Soit miraculeusement, parce que Dieu en avait décidé ainsi, ou soit par un travail sur soi. Aime Dieu, c'est... Parce que tout ça, là, on revient à quoi? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, aux citernes crevassées. C'est qu'avant de connaître Dieu, tu as développé des dépendances parce que y avait dans ta vie des souffrances, il y avait des manques. Donc, tu as développé des dépendances qui t'ont amené du plaisir dans ta vie. Et tu as aimé ces choses-là, même si ce n'était pas des choses qui étaient à la gloire de Dieu, même si ce n'était pas des choses pour ta santé. Mais tu les as aimées, tu les as pratiquées. Ce sont des citernes crevassées. Maintenant, Dieu t'appelle à l'aimer plus que tout. Et que là, tu dois changer tes habitudes, tes plaisirs. Maintenant, ce n'est plus là-dedans que tu vas les trouver dans tes dépendances. C'est en Dieu que tu vas le trouver. Il y a un switch à faire. Mais il est personnel. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. On ne peut pas obliger quelqu'un à développer une relation d'amour. Mais la clé, elle est là. C'est que si tu développes une relation d'amour avec Dieu, alors tu n'auras plus besoin de cette dépendance. Au contraire, le Saint-Esprit va te montrer que c'est sale, va te montrer que ça nuit à ta santé, va te montrer que ça nuit tes relations. Et que petit à petit, tu vas aimer plus Dieu que tes dépendances. C'est ça, la finalité. Finalité, c'est de dire, Seigneur, je veux t'aimer de toute mon âme, tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée. Et si tu fais ça, la dépendance va perdre de sa force. Parce que c'est cette puissance de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit qui va prendre le dessus et qui va te permettre petit à petit de quitter cette dépendance. Amen. C'est dans cette réalité que nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est avec tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas décourageant. Tout ce que je vous ai dit, c'est simplement que vous ayez conscience de cette réalité de la vie et que nous sommes appelés, dans cette vie difficile, à être la lumière. Mais oui, si nous n'apportons pas la lumière, qui le fera? C'est nous qui avons reçu cette puissance pour transmettre aux autres. Appelé à être la lumière, le sel de la terre, un espoir pour chaque être humain, montrer qu'un chemin est possible pour trouver la paix et l'amour dans nos relations et vivre enfin heureux sur cette terre. Ce chemin, c'est une vie en dépendance avec Jésus et le Saint-Esprit. Voilà la finalité. Il ne faut pas perdre de vue la vision. Il ne faut pas perdre de vue le but final. Le but final, c'est que j'ai été choisi pour faire une différence dans ce monde. Enseigner, mis en application et encourager les autres à le faire. Il y a un chemin. Il y a un chemin qui est possible. Pour nous, évidemment, il faut mettre en application, mais aussi pour les autres. Appeler à nouer des relations, à s'attacher les uns aux autres, tout en protégeant nos cœurs. Une ligne d'équilibriste que nous allons découvrir tout au long de ces étapes. Apprendre à aimer comme Dieu aime, aimer sans tomber dans la naïveté, en étant conscient que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, mais dans une guerre avec un ennemi redoutable. Et aimer, c'est la règle de base. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Aimer avec cet équilibre. J'aime, mais je ne suis pas naïf. Mais j'aime. Et je ne suis pas naïf. C'est-à-dire que des fois, eh ben, je vais prendre des coups. Et même, j'irai plus loin. Des fois, je vais en donner. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à être des petits saints. D'accord ? Mais ça fait partie de l'enjeu. Des fois, je vais me tromper. Des fois, je vais faire des erreurs. Heureusement qu'il y a le pardon. Des fois, celui que j'aime va me faire mal. Des fois, celle que j'aime va me faire mal. Ça fait partie de la règle du jeu sur cette terre. D'accord ? Il faut l'accepter. Plus vite on va l'accepter, plus on va le comprendre, plus on sera apte à pardonner quand l'autre nous aura blessé. Merci, ma sœur. Ne pas être naïf, c'est de comprendre que c'est pas la blessure en soi, c'est pas grave. Parce que la blessure en soi, elle est normale. Si tu comprends la puissance du péché, quand quelqu'un t'aime, va te blesser, tu ne seras plus à dire « Mais c'est pas normal, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ?» Non, tu es passé à un autre niveau. Tu es passé dans le fait que personne n'est parfait. Il y a tout le monde subit une influence du péché. Et là, il s'est passé quelque chose, oui, pour les êtres humains qui n'est pas normal. Mais dans le monde spirituel, ça va arriver. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ton attitude. Ce qui compte, c'est comment tu vas réagir avec ce que l'autre a fait. Est-ce que tu vas lui pardonner? Ou est-ce que tu vas ouvrir la porte de l'offense et que tu vas lui en vouloir? L'enjeu, il est là. Est-ce que tu vas continuer d'aimer cette personne-là? Ou est-ce que tu vas dire, non, ce n'est pas normal ce qu'elle a fait, je ne lui pardonne pas et j'arrête d'aimer. C'est ça l'enjeu. On va le voir avec la phrase d'après. Responsable de notre vie, en assumant nos choix. C'est des choix personnels. Dans notre communion avec Dieu, personne ne rentre là-dedans. C'est moi et Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de suivre Jésus? Est-ce que je décide d'être un disciple? Est-ce que je décide de prendre mes responsabilités? L'enjeu, il est là. C'est toi et Dieu. Personne d'autre. Tu vois, c'est je ne suis pas responsable de ce que les autres me font, me disent. Et quand ils font quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire, ça va arriver. Je ne suis pas responsable de ça. Mais attention, je suis responsable de ce que je vais faire avec ce que les autres m'ont fait. Tout est là. La clé, elle est là. J'ai pris un coup, là. J'ai pris une flèche. Mais je fais quoi avec la flèche? C'est ça. Si tu réagis comme tout le monde, eh bien, tu vas dire, hein, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as foutu une flèche, là. Mais tu vas voir un peu, toi. Tu vois? Ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais si on est disciple de Jésus, on comprend tout ce que je viens de dire pendant une heure et demie. Et on dit, waouh, Seigneur, waouh, oui, humainement, c'est normal, j'ai pris le coup. Et on ne va pas faire comme si qu'il n'y avait pas eu de coup. On va dire, t'es Seigneur, wouh, ça fait mal. Ok, mais tu vas dans ta chambre, tu dis, Seigneur, waouh, regarde, j'ai pris un coup. Pense que l'ennemi est à l'œuvre. Pense, Paul le dira, Paul, il explique bien les choses, il te dira, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu te bagarres là. C'est contre les esprits impurs qui sont derrière. Il y a une volonté de détruire ta relation avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es responsable de ton choix. Et notre choix, il est simple. Il est de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il est de ne pas ouvrir la porte de l'offense. Il est de garder ton cœur pur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. C'est ça notre attitude. Et de dire, Seigneur, remplis-moi de toi. Et c'est là qu'on a besoin de venir au pied du Seigneur, parce qu'on a besoin d'être fortifié par le Seigneur. Nous, on choisit de ne pas prendre l'offense. Mais c'est Dieu qui nous rend capables. On a besoin de recevoir l'amour de Dieu et de dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, ça fait mal. Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je ne veux pas dévier de mon objectif. Mon objectif, c'est de garder les relations, d'être artisan de paix, de tant que c'est dans mon pouvoir de garder la paix. Alors Seigneur, donne-moi l'amour pour cette personne-là. Et rien ne t'empêche, après, de la confronter. Rien ne t'empêche, d'après, avec un cœur, les émotions, il faut les laisser tomber un peu. Ok, on prend une bonne dose d'amour de Dieu et après, on la confronte. Et on lui dit, tu sais, ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Parce que moi, j'avais une amitié. Je croyais dans notre amitié. Mais ce que tu m'as dit m'a fait mal. Et après, on verra comment ça se passe. Si elle, tout d'un coup, elle repense ses esprits et elle te dit, tiens, c'est vrai. Ah, excuse-moi, pardonne-moi. Alors oui, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, on rentre. Mais si elle dit, ah bon, moi, je ne t'ai rien fait, moi. Ben, on verra à quel niveau on met la relation. Mais au moins, on aura sauvé notre cœur. Au moins, on ne sera pas rentré dans le piège de l'ennemi. Vous comprenez ça? C'est fondamental ce que je vous dis ce soir. C'est de comprendre comment ça fonctionne, les relations. Tu gardes l'amour de Dieu pour elle et tu fermes la porte à l'ennemi. Et après, s'il y a besoin de la confronter, parce qu'il faudra sans doute la confronter, parce qu'il faut il faut pas qu'elle recommence, parce que je ne vais pas sans arrêt avoir mal. Sinon, on va rentrer dans une relation toxique, une relation qui va petit à petit, qui va finir par m'abîmer. Ok? Vous comprenez ça? L'écrivain pasteur Chuck Swindoll a écrit ceci. La vie, c'est 10% de ce qui m'arrive et 90% comment je réagis avec ce qui m'arrive. Et oui, la vie, c'est là. Parce que tu vois, les 10% qui m'arrivent, c'est ce qui arrive à tout le monde. La terre gît sous le malin. Donc, c'est pour tout le monde la même chose. Ce n'est pas la peine de dire, toujours moi, ça arrive à moi quand il faut changer le marc du café. Ça arrive à tout le monde. Il faut changer le marc du café quand c'est plein. Et ça arrive à tout le monde, pas qu'à toi. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut changer le marc. Et des fois, tu en as marre. Mais c'est comment je réagis. C'est ça qui compte, comment je réagis. Amen. Et Dieu et Jésus le dira à la fin, pas loin de la fin, de son sermon sur la montagne. Il va le dire. Et c'est clair et net. Pourquoi? Il arrive sur cette terre. Il fait le premier sermon, le sermon de la montagne. Et là, il révolutionne les relations. Il révolutionne. Reprends ta Bible, regarde Matthieu 5, 6, 7, et tu vas voir que Jésus révolutionne les relations. Et là, quand tu comprends ça, il va dire, avec tout ce qu'il vient de dire, il dit, alors maintenant que je t'ai dit tout ça, tu en es encore à regarder ce qui ne va pas chez l'autre. Mais regarde plutôt ce qui ne va pas chez toi et travaille sur toi. Ne travaille pas sur l'autre, tu n'as aucun pouvoir pour changer l'autre. Mais travaille sur toi. Décide de changer avec ma puissance. Et ma puissance, elle agit en toi. Il dira ça, il dit, regarde, tu vois, tu veux ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois même pas la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire qu'il ne met même pas les deux personnes au même niveau. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de voir là-bas? C'est une paille que tu vois. Mais regarde-toi. Toi, ce n'est pas une paille que tu as, c'est une poutre. Pour dire qu'il y a du boulot. Merci Seigneur. Mais c'est une façon de prendre les choses. Ça évite les conflits. Ça évite de regarder à l'autre comment il a agi, à l'autre comment il a parlé. Ça ne te regarde pas, ça. Ça, toi, ce qui te regarde, c'est comment tu réagis avec ce qui vient de se passer. Ça, c'est intéressant. Parce que là, tu travailles. Parce que là, il y a de l'effort à faire. Là, il y a quelque chose que tu peux faire et que tu dois faire. Ça change, hein? Ça change. C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre. C'est tellement facile de dire, je me suis mis en colère cet après-midi. Ah bon, tu t'es mis en colère? Ah ouais, mais attends, je vais te dire comment ça s'est passé. Tu verrais comment il m'a dit. Il m'a dit ça comme ça. Il m'a parlé. Ah ouais? Ah ouais, oui, attends, ce n'est pas fini. Il a... Ça, tout le monde sait le faire, ça. Tout le monde sait le faire. Mais demander de l'aide de Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas être en colère. Seigneur, aide-moi. Parce que voilà, il s'est passé ça. On s'est mal compris. Moi, je veux garder la paix. Moi, je vais vous dire, j'ai fait tout ce travail-là avant vous. Plusieurs fois, ça fait 15 ans que je le fais. Je vais vous dire, la paix, elle n'a pas de prix. Je suis plus prêt à perdre ma paix pour des histoires qui n'en valent pas la peine. C'est fini, ça. J'arrive peut-être à un certain âge, c'est peut-être l'avantage de l'âge. Non, je vous dis, moi j'ai compris. J'ai compris que quand tu as acquis, par la grâce de Dieu, la paix avec Dieu, la paix avec toi, la paix avec les autres, quand tu as acquis la paix, tu n'es pas prêt à la perdre hein, pour un plat de lentilles. Moi, je te le dis. Ouais, on a fini. Travailler avec le Saint-Esprit pour corriger ce qui a été déformé. Comprendre les dégâts du péché dans notre vie, c'est-à-dire nos faiblesses. C'est quoi travailler sur nous-mêmes? C'est de se dire humblement, le péché a fait des dégâts en moi. Je ne suis pas spécial, je n'ai pas été immunisé, je ne suis pas arrivé sur cette terre et moi, il ne m'est rien arrivé. Non! Tu as subi des choses et on t'a transmis des choses. Okay? Et ça s'appelle tes faiblesses. Et ce n'est pas une honte que d'avoir des faiblesses, puisque ce n'est pas de ta faute, c'est le péché qui a fait ça en toi. Okay? Eh bien, comprendre nos faiblesses hein, pour ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Parce que si tu ne connais pas tes faiblesses, si tu joues avec ça, l'ennemi, il les connaît tes faiblesses. Ok ? Si tu es pris avec la pornographie, si tu es pris avec la luxure du sexe, il connaît tes faiblesses. Eh bien, c'est là-dedans qu'il va travailler. Alors qu'avec Paul, cet enseignement qu'on a reçu, Paul, il dit quoi ? C'est quand je suis faible, quand je reconnais ma faiblesse, que je deviens fort. Parce que je suis revêtu du Saint-Esprit. Mais il faut reconnaître sa faiblesse. C'est la base. Ce n'est pas une honte. C'est que c'est le péché qui nous a atteints. Donc, on va nettoyer le placard. On va virer les squelettes. Ça n'a plus de place chez nous. Et par contre, on restera vigilant. On restera vigilant dans nos faiblesses. C'est sûr que si tu es fragile dans ce domaine-là, il va falloir que tu prennes des précautions peut-être plus qu'un autre. Et toujours faire attention de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12, 19, Paul dira, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mais si tu ne reconnais pas ta faiblesse, mais où est-ce que la puissance va s'accomplir ? Il faut reconnaître ta faiblesse. Pour goûter à cette vraie liberté, il faut dépendre complètement de Dieu et non plus des hommes. Alors on verra tout ça. Hein, on ne dépend plus du jugement de l'homme. On ne dépend plus de ce que l'homme dit sur moi. On s'affranchit de tout ça. On dépend de ce que Dieu dit sur nous. Pardonner à ceux qui nous ont blessés. Demander pardon à ceux que nous avons blessés. En vivant la vie du Saint-Esprit, ce qui va nous permettre de désamorcer les conflits en traquant les pièges de l'offense et ainsi protéger notre cœur de l'amertume, le poison de l'âme. Amen. Nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour briser nos chaînes du passé et par la grâce de Dieu, vivre une véritable transformation. La fragilité de l'être humain réside dans sa capacité à chaque jour d'être blessé et de blesser les autres. À chaque jour, il y a le risque de blesser ou d'être blessé. C'est ça la nature humaine. C'est le sens de la mise en garde du Saint-Esprit. Veillez et soyez sur vos gardes, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Il y a un lion rugissant qui est là, qui couche à ta porte, qui s'appelle le péché, il t'attend au virage. Ne sois pas naïf, il connaît tes faiblesses, il connaît où est-ce qu'il va essayer de t'avoir et il est plus puissant que toi. Veille, reste dans la puissance du Saint-Esprit, reste connecté avec le Seigneur de façon à ce qu'il fuit loin de toi. Résiste-lui. Ne soyons pas naïfs. 2 Corinthiens 2, 11 nous dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà ce que nous avons vu ce soir dans l'introduction des 12 étapes. Nous n'ignorons pas ses desseins et on ne se fera pas avoir. C'est comme la guerre. Il faut que tu connaisses les plans de l'ennemi. Il faut que tu connaisses la force de l'ennemi pour le piéger, pour pas que lui te piège. Le diable ne lâche jamais ses proies et ses proies, c'est nous. Il utilise nos faiblesses, nos blessures, en nous manipulant dans nos pensées, et il utilise ceux avec qui nous sommes attachés pour les manipuler dans leurs pensées et les amener à faire des choix destructeurs. Voilà comment il utilise les êtres humains. On le voit vite fait dans Luc, là. Luc 22, 3. Or, Satan entra dans Judas. C'est clair, c'est net. Satan est entré dans Judas, dans les pensées de Judas. D'accord ? Et avec les pensées, il lui a fait faire des mauvais choix. Judas alla s'entendre la puissance du péché avec les principaux sacrificateurs. Tout d'un coup, l'esprit de Satan l'a pris et il lui a dit « Va livrer Jésus. Va. » Les choix destructeurs. Et on le voit après, quand il est revenu à sa raison, il s'est repenti. Mais c'était trop tard. On lui a dit « C'est pas grave. » « Ça te regarde. Ça te regarde. C'était ton choix. Tu as fait ton choix. » Judas alla se pendre. Le choix destructeur. Vous voyez, vous revoyez dans un être humain comment ça fonctionne. Il s'est fait avoir, l'esprit de Satan est entré en lui, c'est-à-dire qu'il l'a influencé dans les pensées, il a trahi Jésus, après il a repris ses esprits, il s'est repenti, et là on lui a dit, c'était ton choix, tu as fait ton choix. Il s'est repenti, pas avec Jésus, il s'est repenti avec les sacrificateurs. Dieu nous aime, il nous veut saints, S-A-I-N, et saints, S-A-I-N-T. Il nous veut en bonne santé, il veut nous voir grandir et croître en sainteté. C'est-à-dire dans une vie où le péché n'a plus d'influence et d'impact sur nos choix. Et pour cela, il nous a donné toute la puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ça ne consiste pas en paroles. Le royaume de Dieu, c'est une question de puissance. La puissance entre l'ennemi qui essaye de nous influencer et le Saint-Esprit qui essaye de nous influencer dans des bons choix. L'objectif du vase restauré, c'est la guérison de notre être intérieur. Progresser étape par étape vers le plein potentiel de notre vie, nous allons nous emparer des clés essentielles qui vont nous permettre d'être libérés des dépendances, des dysfonctionnements qui nous asservissent d'une manière ou d'une autre et nous empêchent de devenir la personne que Dieu veut que nous devenions. Nous allons grandir dans la façon de gérer nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et surtout nous allons goûter à la liberté d'aimer comme Jésus a aimé. Aimer de manière inconditionnelle pour garder un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cahier de bord, un stylo, la parole de Dieu, du travail, une bonne dose d'humilité, une bonne dose de bonne volonté. Et bon courage pour cette nouvelle session. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il est un peu tard, on va rendre grâce et je vais vous laisser filer. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veux que tes enfants ne soient pas naïfs. Tu veux que tes enfants soient avertis. Tu veux que tes enfants s'emparent de toutes les armes du royaume, de tout ton amour, Seigneur. Tu veux que tes enfants ne soient pas là ballottés à toutes sortes de doctrines, Seigneur, mais qu'au contraire, ils soient armés. Au contraire, qu'ils soient enracinés en toi, afin de ne pas subir les attaques de l'ennemi. Seigneur, agis dans les cœurs. Seigneur, qu'à travers cette session, nous voyons des âmes libérées, des âmes là qui goûtent à la vraie liberté, qui comprennent le sens des relations humaines, qui ne se font pas piéger par l'ennemi, mais au contraire, qu'ils comprennent comment tout cela se passe et qu'ils soient forts en toi, Seigneur, qu'ils prennent leur force en toi, qu'ils soient connectés avec toi. Toute la journée, avec le Saint-Esprit. Seigneur, agis puissamment dans les vies. Apporte la liberté dans le nom puissant de Jésus.